Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce mardi 21 décembre. Avec vous, Christophe Mallet et Jean-Noël Lucas pour une heure en français. Au cours de cette émission, le journal, les sports, le Zap France. On parlera aussi du film Delicious qui sort en Australie dans les prochains jours dans le cadre de la gastronomie et de la série à table Kitchen Conversations. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Et tout d'abord, les grands titres de ce mardi 21 décembre. Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré que l'Australie entre dans une nouvelle phase de gestion du Covid-19, qui est une culture de responsabilité plutôt que de contrôle et de mandat. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé exhorte les gens à envisager de retarder ou d'annuler les événements de Noël. La Nouvelle-Galles du Sud a atteint un autre record, enregistrant 3057 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés dans l'État au cours des dernières 24 heures et deux autres décès. Il y a actuellement 284 patients à l'hôpital, dont 39 en soins intensifs. Pendant ce temps, le Victoria a enregistré 1245 nouveaux cas de Covid-19 et 6 décès, alors que les sites de tests PCR continuent d'être inondés à l'approche de Noël. Au total, 392 patients sont hospitalisés dans le Victoria, dont 73 activement infectés par le virus et en soins intensifs. Le médecin-chef, le professeur Paul Kelly, a écrit aux dirigeants au nom de l'Australian Health Protection Principle Committee, en insistant que le port du masque devrait être imposé dans tous les environnements intérieurs, y compris les grandes surfaces, dans les magasins, les bars, les restaurants et les lieux d'accueil, de divertissement comme les salles de cinéma. Et à partir d'aujourd'hui, les habitants de la Tasmanie devront porter des masques à l'intérieur, y compris dans les transports en commun, les taxis et les opérations de covoiturage. Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré que l'Australie entre dans une nouvelle phase de gestion du Covid-19 qui est une culture de responsabilité plutôt que de contrôle et de mandat.
You know, we have to carry the Australian public with us. We have to continue to trust them. Trusting them to be responsible with their own health, as they have, to get vaccinated, to exercise a common sense public health practices. Here's another tip. Omicron is moving substantially amongst the younger population. They're at parties, they're at nightclubs, they're at hospitality venues. I would encourage them, particularly if they're going to spend time at Christmas with older family members, you might want to give that big night out a miss.
Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé exhorte les gens à envisager de retarder ou d'annuler les événements de Noël en raison de l'émergence du variant Omicron. Le docteur Tedros Ghebreyesus déclare qu'il existe désormais des preuves cohérentes qu'Omicron se propage plus rapidement que le variant Delta. Il a déclaré lors d'une conférence de presse à Genève qu'un événement annulé vaut mieux qu'une vie annulée. Et afin de mettre fin à la pandémie, 70% de la population de chaque pays doit être vaccinée d'ici le milieu de l'année prochaine.
All of us are sick of this pandemic. All of us want to spend time with friends and family. All of us want to get back to normal. The fastest way to do this is for all of us, leaders and individuals, to make the difficult decisions that must be made to protect ourselves and others. In some cases, that will mean cancelling or delaying events.
Aux USA, l'administration Biden n'envisage pas de confiner les États-Unis, mais les tests PCR et antigènes ne sont pas aussi disponibles que l'on ne croyait à quelques jours de Noël pour se faire tester. Les précisions de Guillaume Nodin pour RFI.
Avant d'aller se rassembler en famille, mieux vaut être sûr de ne pas être porteur du coronavirus, surtout avec un nouveau variant hautement transmissible. Cette mesure de prudence est partagée par beaucoup d'Américains. Résultat, une forte pression sur les tests rapides ou antigéniques sont pris d'assaut, de même que les tests PCR nécessaires pour certains voyages internationaux. Il n'y a presque plus de rendez-vous, les délais pour obtenir les résultats s'allongent au-delà de ce que demandent certains pays. Comme c'est l'Amérique, il est possible, moyennant un supplément, d'obtenir un traitement accéléré, en théorie en tout cas, puisque même pour ces tests VIP, les capacités d'analyse des laboratoires sont également sous forte pression. Les files d'attente s'étirent partout et notamment dans les grandes villes comme New York où elles font parfois le tour des pâtés de maison où sont situées les pharmacies. Dans ces mêmes pharmacies, depuis ce week-end, il est devenu virtuellement impossible de trouver des autotests. Pourtant, lors de sa dernière intervention sur le sujet, le président Joe Biden avait annoncé un effort pour l'accès aux tests à domicile. Un effort manifestement insuffisant. Sans doute en reparlera-t-il lors de sa prochaine déclaration sur le sujet prévue ce mardi.
Le Royaume-Uni connaît une augmentation de 60% des infections au Covid-19 en une semaine, avec Omicron remplaçant Delta comme le variant dominant. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que de nouvelles restrictions pourraient être mises en place pour ralentir la propagation du virus.
We agreed that we should keep the data from now on under constant review, keep following it hour by hour, and unfortunately, I must say to people, we will have to reserve the possibility of taking further action to protect the public and to protect public health, to protect our NHS. And we won't hesitate to take that action.
Le projet de loi sur la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal en France fait grincer les dents, comme nous l'explique Anthony Latier pour RFI.
Cette année, Jean-Baptiste, cadre parisien, compte bien fêter Noël en famille sans prendre de précautions particulières.
On s'est tous vaccinés, donc je pense qu'il y a un moment, il faut aussi laisser faire les choses. Il faut savoir vivre, faire attention, mais vivre. On va pas ne pas se voir à cause du Covid, si c'est le fond de votre question.
Même son de cloche pour Jérôme, un fonctionnaire épuisé par la pandémie.
Moi, je suis pas trop pour continuer à faire les tests, donc il y aura pas de tests. Après 2 ans, je pense qu'il y a un ras-le-bol. Donc on est habitué à vivre avec les gestes barrières, donc je pense que les gestes barrières suffiront.
Carole ne se fera pas tester non plus. Mais c'est parce que depuis des mois, cette retraitée de banlieue parisienne fait attention. Elle ne passera Noël qu'avec sa mère. Inquiète pour l'avenir, elle aurait préféré que le gouvernement reconfine, comme aux Pays-Bas.
Et avec les fêtes de Noël, je pense qu'on va repartir avec une nouvelle épidémie, quoi. Généralement, les périodes de fêtes, c'est pas fait pour arranger les choses. Malheureusement, les gens se retrouvent en famille et c'est sûr qu'on va replonger.
Craintif ou prudent, de nombreux Français ont décidé de se faire tester avant les fêtes. Les pharmacies et les laboratoires sont pris d'assaut. Plus de 850 000 tests sont réalisés par jour, selon Santé publique France.
Toujours en France, les enfants de 5 à 11 ans peuvent se faire vacciner, mais ce n'est pas obligatoire. Écoutez Lisa Alter de la Haute Autorité de Santé. Elle est aussi la directrice de l'évaluation médicale et elle est sur RFI.
Les formes sévères de Covid-19 sont rarement présentes chez les enfants, mais lorsque c'est le cas, 80% des formes sévères sont retrouvées chez des enfants sans comorbidité. Et dans le contexte actuel, avec l'arrivée du variant Omicron, on peut s'attendre à une augmentation des cas de formes sévères chez les enfants en bonne santé. Ça, c'est un élément extrêmement important. Par ailleurs, le vaccin Pfizer présente une très bonne efficacité contre les variants majoritaires qui circulent actuellement. Donc finalement, tous ces éléments-là, associé à la conclusion de l'Agence européenne du médicament qui a conclu à un bénéfice-risque favorable du vaccin Pfizer chez les 5 à 11 ans, eh bien, la HAS considère que ce rapport bénéfice-risque, même s'il est un peu moins important que chez les adultes, il reste favorable, en particulier aujourd'hui dans le contexte d'augmentation de l'incidence de la maladie en France. Ça, c'est un point majeur que l'on tient à souligner. Par ailleurs, la HAS a pris en compte également le fait que la vaccination des enfants pourrait diminuer la circulation du virus dans les écoles et donc le risque de fermeture de classe et d'isolement des enfants infectés. Ça, c'est une considération majeure. Donc, c'est un bénéfice qui a été également pris en compte dans nos recommandations.
Gabriel Boric, 35 ans, est le nouveau président du Chili. Il a été élu avec 56% des voix contre 44% pour José Antonio Kast de l'extrême droite. Reportage de Justine Fontaine pour RFI.
Buenas noches, Chile!
À 22h passées, Gabriel Boric a dû enjamber les barrières au milieu de la foule pour rejoindre la scène installée en centre-ville avant de saluer le public en langue autochtone.
Bonui, suma, aruma, punmai,
au micro, Chile. Il confirme ses promesses de réformes sociales dans la santé, l'éducation, les retraites, des domaines entièrement ou partiellement privatisés sous la dictature.
Nous ne voulons pas qu'il continue de faire de nos retraites un business. Et nous allons défendre un système public, autonome, à but non lucratif et sans fonds de pension privé.
Il veut passer d'un système de retraite par capitalisation à un système mixte et plus généralement avancer du néolibéralisme vers un État-providence. Rosa Ahumada, 65 ans, est venue fêter la victoire de son candidat à Santiago.
C'est l'opportunité d'aller vers la nouvelle constitution et de changer notre pays. Car le Chili est beaucoup trop inégalitaire. Les injustices sont trop grandes.
Au Chili, 1% de la population, les plus riches, perçoit près d'un tiers des revenus du pays. Mais Gabriel Boric n'aura pas la tâche facile. Le Parlement est très fragmenté et la croissance s'annonce faible l'année prochaine.
En Afrique, il y a 20 ans, hier le 20 décembre, disparaissait Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal, professeur, poète, député, ministre et président. Son portrait avec Binta Diane pour RFI.
Francophile convaincu, Léopold Sédar Senghor a théorisé le métissage culturel tout au long de sa carrière. Senghor est resté marqué par ses racines africaines, des racines que le grammairien défend avec plusieurs intellectuels, dont Aimé Césaire, avec lequel il crée le concept de négritude. Leur but, mettre en avant la culture des peuples noirs, à l'image du premier festival mondial des arts nègres, qui réunit pendant 3 semaines à Dakar en 1966 de nombreux artistes, danseurs et poètes d'Afrique et de la diaspora. Fin politique, Léopold Sédar Senghor a conduit son pays vers l'indépendance en 1960. Aux côtés de Mamadou Dia, alors président du Conseil, il veut instaurer un socialisme ouvert et humaniste. Mais une brouille éloigne les deux hommes. Jugé pour haute trahison, Mamadou Dia est condamné à perpétuité. Plusieurs opposants s'exilent. Le climat politique se décrispe à partir de 1972 avec la libération de Mamadou Dia et la création d'un parti de contribution, le PDS d'Abdoulaye Wade. En 1980, Senghor quitte volontairement le pouvoir, laissant l'image d'un pays où pluralisme et liberté d'expression sont possibles en Afrique de l'Ouest.
En Australie, à nouveau, des chercheurs australiens exhortent le gouvernement à investir davantage dans l'enseignement des langues autochtones bilingues, car leur étude montre l'étendue de la disparition de ces langues. La recherche a révélé que seulement 40 langues des Premières Nations sont encore parlées en Australie, contre plus de 250 avant la colonisation. Et seulement 12 sont enseignées aux enfants. La co-auteure de l'étude, la professeure Felicity Meekins de l'Université du Queensland, a déclaré sur SBS News que les langues des Premières Nations sont vitales pour la santé et le bien-être au sein des communautés.
Languages are really linked, particularly in Australia, to Indigenous health and well-being. And we know that Indigenous youth suicide, for instance, is very high in this country. In many places in Australia, Australian languages have been silenced as the result of really brutal colonial policies. So people were punished for speaking their language. Children were put into dormitories, which really broke that intergenerational transmission. So there's a lot of trauma surrounding languages.
Un mot de sport pour vous dire que l'Australie a gagné le deuxième test match des Ashes et prend une avance de 2-0 dans la série. Une seule équipe est revenue de 2-0 pour remporter une série des Ashes. C'était l'équipe australienne de Donald Bradman en 1936-1937. Et tout à l'heure, on retrouve Christophe pour un journal complet des sports. On passe à la météo pour ce mardi en Australie, à Perth, il fera 30 degrés, Adélaïde 27, Melbourne 26, Hobart 20, Canberra 29, Sydney 29 également, Brisbane 32, Cairns 34, Darwin 33 et à Alice Springs, un maximal de 38 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi. Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré que l'Australie entre dans une nouvelle phase de gestion du Covid-19, qui est une culture de responsabilité plutôt que de contrôle et de mandat. Voilà, fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français ? continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Journal des sports et on commence avec du handball et les Françaises qui sont passées très près de l'exploit ce week-end donc dans la Coupe du Monde de handball avec une défaite en finale contre le Danemark. Retour sur ce match avec Christophe Desramzian.
C'est passé du rêve au cauchemar, littéralement 20 premières minutes à faire jeu égal et puis une séquence quasi euphorique pour les Bleus qui se détachent à plus 3 voire même plus 6 sous l'effet début d'Estelle Zeminko mais aussi de parades importantes de Laura Gloser, la gardienne. Les Norvégiennes sont mises sous l'été noir vraiment par la défense tricolore. Le trio offensif norvégien ne fonctionne pas du tout. Les Françaises retournent au vestiaire en menant 16-12 et en revenant, eh bien le match s'inverse totalement. Les Norvégiennes retrouvent leur base arrière et leur inspiration. Ça se traduit d'entrée de jeu par un 4-0 pour les championnes d'Europe. Et ensuite, les Bleus entrent dans un trou noir complet. 11 minutes sans marquer le moindre but. Le jeu français se délite complètement. Perte de balle, tentative de but sur contre-attaque vont danger. Quand dans le même temps, les Norvégiennes retrouvent leur efficacité. Et la gardienne, Silje Solberg, devient infranchissable. Elle terminera d'ailleurs avec 50% d'arrêt. Les Scandinaves finiront par gérer tranquillement un match qui a totalement filé entre les doigts des tricolores d'une période à l'autre, comme l'explique l'arrière Estelle Zeminko.
Ce soir, il y a deux matchs. Il y a une première mi-temps géniale où on a le contrôle du match et il y a une deuxième mi-temps où on perd complètement pied et plus rien ne marche, ni notre défense, ni notre attaque, ni nos montées de balles, ni nos duels tireurs-gardiens. On est, je pense, aussi impacté un peu par le scénario du match où on peut se retrouver à plus 7, voire plus 8 à la mi-temps et en finale, on est à plus 4 et je pense que ça leur permet mentalement de rester dans le match et de se dire que tout est encore possible là où on aurait pu les impacter encore plus et finalement elles reviennent hyper vite en début de deuxième et elles prennent le lead directement et voilà, on est impacté mentalement par cet échec.
La Norvège qui décroche son 4e titre mondial, le 14e sacre international de son histoire.
Ouais, donc Christophe Desramzian a noté que plus de 4 millions de personnes ont regardé ce match à la télévision en France. C'est un record pour du handball féminin. Allez, on passe au football maintenant. C'était week-end de Coupe de France en France. Retour sur quelques surprises avec Marie-Amélie Motte.
Oui, malgré les 5 divisions d'écart entre les deux équipes, l'INAS Montlhéru a battu Angers 9e de Ligue 1. Une victoire 2-0 grâce à un doublé de l'attaquant guinéen Pascal Leno. À l'issue de la rencontre, l'entraîneur du club de l'Essonne, Stéphane Cabrelli, a fait part de sa fierté.
Ça fait plusieurs années qu'on est tous ensemble. C'est un groupe qui est sain, qui est réceptif et je pense qu'ils le méritent. C'est eux qui vont chercher leur victoire aujourd'hui. Ils ont tout appliqué à la lettre et même plus. Je dirais, je suis vraiment fier d'eux et fier d'être leur entraîneur. On avait un plan de jeu, certes. Je leur avais demandé d'être ambitieux au niveau du jeu, sans prétention, bien évidemment. Et on voulait le gagner, donc on a réussi. C'est vrai que ce départ nous a mis vraiment dans de bonnes dispositions. Après, on a eu beaucoup de sérénité. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il ne pouvait pas nous arriver grand-chose. Enfin, en tout cas, c'était l'impression que ça nous donnait. Donc c'est le petit qui bat un gros, ça nous permet de voir, même pour les joueurs, de voir un petit peu la différence entre nous et eux. Donc c'est une compétition qui est extraordinaire.
En 16e de finale, l'INAS Montlhéry affrontera Amiens, un club de Ligue 2. On écoute maintenant la réaction du capitaine du SCO d'Angers, Romain Thomas, déçu mais assez lucide sur le match.
On est prévenu, on connaît tous la Coupe de France, on sait que le cœur, l'envie, je pense qu'on a... On a fait un match sérieux comme nous a dit le coach. Par contre, il faut mettre plus de créativité. On était en grande difficulté face à un bloc bas. Ils ont mérité plus que nous la qualif, il n'y a rien à dire. Ils ont été bien plus opportunistes que nous. On a ce qu'on mérite. On a manqué un petit peu de tout ce soir pour passer.
Et autre surprise hier, la qualification pour les 16e de Bergerac, un club de 4e division, tombeur de Metz au tir au but, Metz 18e de Ligue 1. À noter également la très large victoire de Bordeaux, 10-0 face aux amateurs des jumeaux de Mzoisia, un club de Mayotte, quadruplé du Sénégal Mbaye Niang. Et on connaît déjà les affiches des 16e avec notamment un alléchant derby du Nord entre Lens et Lille.
Marie-Amélie Motte. Alors on va parler maintenant de football en Angleterre. On va faire une grande page sur le football en Angleterre. Tout d'abord pour parler de ces matchs reportés qu'il y a eu à cause donc de Covid et donc de pandémie, comme nous l'explique Cédric De Oliveira.
18e journée de Première Ligue, donc 18e journée tronquée, 6 matchs reportés sur 10, ça fait beaucoup quand même. Il y a donc eu 4 rencontres, mais on va d'abord commencer par évoquer les conséquences de la pandémie sur le championnat. On a vu aujourd'hui l'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, furieux après le match nul 0-0 face à Wolverhampton. Il aurait aimé que son match soit reporté. Alors Philippe, est-ce qu'il ne fallait pas mieux tout simplement reporter toute cette journée ?
Ce serait très très compliqué pour la Première Ligue de prendre une telle décision pour une raison toute simple, c'est le fait que la saison anglaise n'est pas élastique, particulièrement en 2021-2022. Je vous explique pourquoi. Nous avons une Coupe du Monde de 2022 qui va commencer au mois de novembre et à cause de cela, on a décidé que la saison à venir, donc 2022-23, en Angleterre, commencerait plus tôt que dans quelque autre saison de l'histoire de la Première Ligue. Donc on a une espèce de date butoir qui fait qu'on a très peu d'espace pour pouvoir recaser des matchs. Quand vous pensez en plus de ça que les 7 clubs anglais sont toujours engagés dans les compétitions européennes, que nous avons la Coupe de la Ligue, que nous avons la FA Cup, et nous devions avoir un mini break hivernal, tout cela, vous mettez tout cela ensemble, et vous vous rendez compte que la marge de manœuvre de la Première Ligue est extrêmement limitée, ce qui explique pourquoi, en ce moment, sa position, je dis bien en ce moment, c'est, nous jouons tous les matchs que nous pouvons jouer, et en espérant que les conditions sanitaires vont s'améliorer dans un avenir plutôt proche. Alors cela dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème, comme le signale Thomas Tuchel, il y a des problèmes de cohérence. Il y a certains clubs dont on reporte les matchs et d'autres dont on ne les reporte pas. Et parfois, les raisons pour lesquelles c'est le cas pour l'un et pas pour l'autre sont assez difficiles à comprendre. Ça, on doit l'admettre.
Les retours sur les 4 matchs qui ont donc bien eu lieu avec Philippe Auclair.
Manchester City qui s'est imposé sans bavure contre Newcastle, tandis que Chelsea faisait donc match nul contre les Wolves et que Liverpool, dans ce qui était sans doute le plus beau match ou le match le plus passionnant de la saison à ce jour,
a fait match
nul
2
partout. Ah, c'était pas mal, oui. A fait match nul 2 partout dans un stade de Tottenham qui, c'est vrai, était bondé de spectateurs, dans la plupart n'étaient pas masqués. Bon, ça c'est une autre chose. C'est l'Angleterre de cette pandémie qui est assez différente, on va dire, des autres pays en Europe, voire des autres pays tout court. Mais c'est vrai que le spectacle était à la hauteur à Tottenham, mais le grand vainqueur est bien évidemment Manchester City qui fait un mini break. Ce n'est encore qu'un mini break par rapport à ses deux principaux rivaux, à savoir Chelsea et Tottenham. Sans oublier, cela dit, n'oublions pas également l'autre match qui s'est joué hier, qui a permis à Arsenal de conforter sa place dans le top 4, ce qui n'était pas nécessairement évident après les 3 premières journées de cette saison.
Philippe Auclair, et un petit coup de projecteur sur Tottenham. Tottenham qui a fait donc match nul, vous l'avez entendu, contre Liverpool. On écoute la réaction d'Antonio Conte, l'entraîneur de Tottenham.
C'était une bonne performance, un bel effort, avec une grande implication de tous mes joueurs. Ce n'était pourtant pas facile après 2 semaines sans jouer durant lesquelles on a beaucoup souffert. C'est donc très bien d'avoir obtenu ce point, surtout contre Liverpool, qui est selon moi l'une des meilleures équipes du monde à l'heure actuelle. Jouer contre eux n'est jamais facile. Mais d'un autre côté, comme je l'ai dit aux joueurs, on doit être déçu. On s'est créé énormément d'occasions de marquer, et quand on a la possibilité de tuer le match, on doit le faire et prendre les 3 points. Je suis donc partagé. C'était un bon match, mais quand vous livrez ce genre de performance, vous devez gagner.
Voilà, on continue sur le football et la question de la Coupe d'Afrique des Nations. La CAN sera-t-elle maintenue ? Devrait-elle maintenue ou pas ? Les explications avec Eric Mamrut.
Oui, la pression s'accentue sur la CAF, inquiète de la propagation en Europe du variant Omicron, inquiète des menaces des grands clubs européens de ne pas envoyer leurs internationaux à la CAN. La Confédération africaine s'est réunie ce dimanche en comité exécutif pour faire le point. Beaucoup se sont exprimés autour du président de la CAF, Patrice Motsepe. Les mots report, maintien et annulation ont circulé. Et même si aucun vote n'a conclu cette réunion, la majorité, selon nos informations, se sera prononcée contre un report de la CAN
Guyane camerounaise. Il n'empêche, Patrice Motsepe va se rendre au Cameroun pour s'entretenir avec les autorités du pays, obtenir des garanties sur le protocole sanitaire publié cette semaine et qui impose la vaccination doublée d'un test PCR ou antigénique à toutes les personnes voulant venir au stade, des garanties sur l'applicabilité réelle de ce dispositif, obtenir des assurances donc afin de tranquilliser les clubs européens et freiner les velléités de la FIFA et de son président Gianni Infantino qui verrait d'un bon œil le report de cette CAN, lui qui a toujours été favorable à une Coupe d'Afrique tous les 4 ans.
Eric Mamrut, donc pour la CAN. Et on va passer au tennis pour conclure ce journal des sports. La joueuse chinoise Peng Shuai est réapparue ce week-end dans une vidéo dimanche, mais la WTA, donc l'organisation qui gère le tennis féminin, reste très inquiète. Stéphane Lagarde.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que la star chinoise du tennis féminin a pris le temps de la réflexion. 47 jours après son post censuré sur le réseau social Sina Weibo, Peng Shuai affirme que son message a été mal compris. Veste noire, drapeau chinois, la boutonnière, l'ex-championne du double à Roland-Garros se confie au liendreux Zhao Bao en marge d'une course de ski nordique à Shanghai.
Tout d'abord, je dois souligner un point extrêmement important. Je n'ai jamais dit ou écrit que quelqu'un m'a agressé sexuellement. Je dois clairement souligner ce point.
Dans cette vidéo de 6 minutes publiée sur le site du premier quotidien en langue chinoise de Singapour, Peng Shuai dit également vivre chez elle à Pékin sans surveillance. La censure de son message initial suivi de sa disparition médiatique avait inquiété la planète tennis. À aucun moment dans cette vidéo, pour la première fois diffusée sur un média étranger en langue chinoise non censurée en Chine, Peng Shuai ne fait mention de celui qu'elle semblait accuser au départ, à savoir l'ancien vice-premier ministre chinois Zhang Gaoli.
Voilà donc pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.
Voilà, 13h30 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français et vous venez d'entendre Holly Seas et Chien Noir qui nous interprétaient La Nuit, le Vent. Et voilà, je repasse maintenant l'antenne à notre collègue Christophe pour le Zap France.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Le Zap France, les déclarations fortes des derniers jours en France. Nous revenons aujourd'hui sur l'annonce de Christine Taubira, l'ancienne ministre de la Justice. Elle envisage de se présenter à l'élection présidentielle d'avril prochain. Elle en a fait l'annonce sur les réseaux sociaux en fin de semaine dernière. Une candidate de plus, donc à gauche. Vous allez l'entendre, cela a suscité beaucoup de réactions. Le Zap France avec notamment des extraits d'Europe 1 et de France Télévisions.
Il y a des candidatures de personnes de grande valeur pour qui j'ai de l'estime et de l'amitié. Mais je constate l'impasse. J'ai toujours dit que je prendrais ma responsabilité.
Elle l'a annoncé ce matin, mais ce n'est pas si simple. Elle dit simplement qu'elle envisage d'être candidate.
Pour cela, j'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française.
Quelle pagaille à gauche. Christiane Taubira se lance dans la bataille de la présidentielle.
Je ne serai pas une candidate de plus. Je mettrai toutes mes forces dans les dernières chances de l'Union.
Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonjour Louis.
Bonjour Romain.
Est-ce que la proposition de Christiane Taubira peut aboutir?
Déjà, c'est une possible nouvelle candidature à gauche. L'ancienne ministre de François Hollande se lance donc dans un nouveau défi, celui d'unir toute la gauche derrière elle, ce qui veut dire qu'elle appelle les autres candidats à renoncer pour la soutenir. Autant dire qu'elle n'a presque aucune chance.
J'envisage, dit Christiane Taubira, qui pourrait ainsi participer à une éventuelle primaire de gauche portée par un collectif de citoyens qui a réuni près de 300 000 signatures.
J'ai fait le compte de ce qui compte. Vous, vos interrogations, vos attentes. Ce qui compte, c'est la fragilité du quotidien pour des millions d'entre vous, les incertitudes de l'avenir, les fragmentations qui sont à l'œuvre dans la société française.
L'ancienne ministre de la Justice, déjà candidate en 2002, reste une icône pour une partie de la gauche, mais pas pour tout le monde.
Mais nous, on a fait notre primaire. Encore une fois, je l'ai dit, moi je ne retournerai pas dans une primaire. Les écologistes, nous sommes déjà un rassemblement, nous voulons continuer à poursuivre ce rassemblement.
Yannick Jadot, qui n'a pas attendu son message, la renvoie dans les cordes.
J'en ai un peu assez. Ces candidatures qui potentiellement s'ajoutent les unes aux autres. Pour combattre, on nous explique que pour combattre le trop grand nombre de candidatures, il faut plus de candidatures. Faut oser la faire, celle-là.
Mais il y a une deuxième ligne au sein d'Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau, qui dit « Bravo Christiane !»
Moi, je suis ultra contente qu'elle vienne parce que je pense que cette femme est une femme de combat, une femme de conviction et qu'elle ne lâchera pas. Maintenant, je vous dis juste, la question aujourd'hui sur la table, vraiment qui est au milieu de la table, qu'on ne peut pas ignorer, c'est l'écologie. Donc, travaillons. Moi, j'ai invité tout le monde pour le premier de l'an chez moi. Donc, venez, venez chez moi, qu'on se mette d'accord et on ressortira le premier de l'an avec cette bonne résolution qu'il n'y ait qu'une seule candidature à gauche.
Et voilà, plus besoin de débat télé. Une bonne fin de réveillon chez Sandrine Rousseau autour de la bûche et le tour est joué.
Autour d'Anne Hidalgo, la candidate du PS.
Par exemple,
elle confirme son souhait d'une primaire pour un candidat unique à gauche.
Je ne vois pas d'autre façon de faire que de le faire à travers un vote organisé, un vote qui soit précédé par évidemment un certain nombre de débats.
À 7000 km de là, en Martinique, Jean-Luc Mélenchon, lui, esquive la question mais ironise.
Je ne veux pas ni polémiquer ni rajouter au ridicule de la situation. D'accord ? Parce que fondamentalement, la vieille gauche est mise dans une situation ridicule.
Non, elle a dit qu'elle envisageait d'être candidate. Moi, j'envisage de lui répondre. Et comme ça, le monde est en équilibre. Non, je respecte Mme Taubira ainsi que tous mes autres concurrents. Mais je voudrais quand même leur dire qu'il s'agit de gouverner un grand pays.
Il s'agit de vous représenter. Parce que l'essentiel, c'est quand même le sens de qui nous sommes. C'est la volonté d'empoigner nos vies et d'ouvrir un chemin commun. C'est la joie qui résultera d'agir sur notre présent et d'inventer l'avenir. C'est la lumière que nos combats et nos succès allumeront dans les yeux de nos enfants. Je vous souhaite de bien finir l'année. Je vous invite à prendre soin de vous, de celles et de ceux que vous aimez. Et je vous donne rendez-vous à la mi-janvier.
Vous êtes avec Radio SBS en français. Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.
minutes sur les ondes de Radio SBS. Le film Delicious sort en Australie dans les prochains jours, un film sur le tout premier restaurant en France. Et je passe l'antenne à notre collègue Audrey Bourget dans le cadre de la série À table, Kitchen Conversations.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Bonjour, ici Audrey Bourget. On se retrouve pour un autre épisode d'À table Kitchen Conversations. Aujourd'hui, on parle un peu de cuisine, mais surtout de cinéma. On a rencontré le cinéaste Éric Bénard, qui a co-scénarisé et réalisé le film Délicieux, qui sort en salle en Australie ce mois-ci.
Du beurre, voyons, du beurre! Faut faire bien, faire grand, faire savoureux.
Si vous avez deux minutes, le duc aimerait faire son commentaire.
Lancerons. Vos cuissons étaient parfaites.
Comment appelez-vous ces petits chaussons ?
Le délicieux.
Truffes et pommes de terre, c'est bon pour les cochons.
Délicieux est un film tout ce qu'il y a de plus français, mettant en vedette Grégory Gadebois, Isabelle Carré et Benjamin Laverne. Son réalisateur, Éric Bénard, nous fait son pitch.
Bah, c'est l'histoire de la création du concept du restaurant, en fait. C'est comment au XVIIIe siècle, un peu avant la Révolution française, les premiers chefs, en l'occurrence un chef qui travaille pour des aristocrates, est licencié parce qu'il a une initiative culinaire. Et à partir de là, il va se réfugier dans les ruines d'un relais de poste où il a passé son enfance et progressivement, avec l'aide d'une femme qui veut être son apprenti, qui veut apprendre la cuisine, et de son fils qui est baigné des idées des Lumières, il va en arriver progressivement à créer ce concept nouveau qu'est le restaurant. Donc, un lieu de partage, de plaisir, où tout le monde a accès et où lui peut proposer sa subjectivité au monde.
Si Délicieux met de l'avant le restaurant et la gastronomie, Éric Bénard a d'abord voulu faire un film sur l'identité française.
Je voulais réfléchir sur... je suis un metteur en scène français, qu'est-ce que c'est que d'être français ? Et donc, dans mes recherches diverses et variées, je suis obligatoirement allé vers le siècle des Lumières et donc vers les années avant la Révolution française. Et je suis tombé sur cette phrase, la création du premier restaurant dans un livre d'histoire. Et je ne m'étais jamais posé la question, parce que je ne savais pas que ça datait du 18e. Et si vous regardez autour de vous, 99% des gens ne le savent pas, parce qu'il y a les auberges, parce qu'il y a les tavernes, parce que cette idée-là, du restaurant, dans toute sa définition complexe, est une idée typique du siècle des Lumières. Et donc, à partir de là, je me suis dit que ça allait devenir le véhicule pour dire ce que j'avais à dire.
Le film se déroule en 1789, juste avant la Révolution française, et campabilement son histoire, une fiction dans la réalité historique de l'époque.
Tout est vrai, tout est faux. Ce qui est vrai, si vous voulez, c'est tous les détails et tout l'esprit. C'est à quel moment est-ce que un valet, d'une certaine manière, devient un artiste? Comment un artisan devient un artiste et comment il invente plein de choses, depuis la table individuelle jusqu'à la nappe, jusqu'au menu, jusqu'au plateau de fromage, jusqu'à, vous voyez, toutes ces choses-là, si ce n'est qu'elles n'ont pas toutes été inventées au même endroit, mais que le retour au produit, le fait de manger avec ses papilles plutôt qu'avec ses yeux, comme le faisait la noblesse, qui n'était intéressée que par des couleurs, des plumes et du faste, retour à la sobriété, à la simplicité et à l'idée du partage, tout ça, c'est vrai, ça date de ce moment-là. Après, la vérité historique, c'est que les 15 premiers restaurants ont été inventés à Paris. Et moi, je voulais pas d'un film parisien, d'abord parce que j'aurais pas l'argent pour le faire, je le savais, et secondo, parce que si vous parlez de gastronomie, c'est la terre, et la terre, c'est la province. Donc, je tenais à cette idée de la création, on va dire, du premier restaurant en province. Et là-dessus, il n'y a aucune documentation. Donc, comme il n'y a pas de documentation, c'était la terre libre pour le scénariste.
Il y a un plat créé par le chef Manseron qui revient plus d'une fois dans le film. C'est le délicieux, une bouchée de pommes de terre et de truffes qui serait assurément appréciée aujourd'hui, mais qui coûte à Manseron son emploi.
C'est obligatoirement quelque chose de symbolique à différents égards. La première, c'est que c'est, comme je le disais tout à l'heure, un chef à ce moment-là, c'est quelqu'un qui reproduit les mêmes recettes tout le temps. On lui demande de reproduire des recettes avec le maximum de faste. Au début du film, mon chef propose un amuse-bouche qui est ce délicieux et qui est une création. Donc, il fait acte de création, il fait acte artistique, en fait. Et c'est pour ça qu'il va être licencié. Alors, en plus, dans ce délicieux, il y a de la truffe et de la pomme de terre. Or, il se trouve qu'au XVIIIe siècle, la truffe et la pomme de terre sont condamnées par l'Église. Donc, il va être licencié, non parce que ce n'est pas bon, mais parce que ça idéologiquement, ça heurte.
Le film repose en grande partie sur les épaules de Grégory Gadebois, qui interprète le chef Manseron. Éric Bénard ne pouvait pas imaginer un autre acteur pour le rôle.
D'abord, pas à cause de son talent, bien entendu, parce que je l'avais vu beaucoup sur scène, y compris à la Comédie française quand il y était. Donc, j'avais très envie de travailler avec. Et puis ensuite, parce que... Grégory avait deux choses qui m'impressionnaient. ses mains. Or, je voulais travailler sur l'intelligence de la main. Et plus encore, ce rapport yin-yang et puissance-fragilité. C'est-à-dire la puissance de l'homme fort et la fragilité de l'enfant. Il me semblait que là, j'avais quelque chose qui était très intéressant et sur lequel j'allais pouvoir construire un personnage qui est victime de sa classe sociale au départ. C'est un homme qui n'a pas confiance en lui. Il a beau avoir énormément de talent, il n'a pas confiance en lui. Jamais il n'inventerait ce restaurant. Il invente le restaurant parce que d'autres personnes lui donnent confiance en lui. Et donc, il me semblait que Grégory allait pouvoir incarner ça. Cette idée, pour le coup, au cœur de la Révolution française, d'un homme ordinaire qui a énormément de talent et qui, à ce moment-là, trouve le suffisamment de confiance en lui par le regard des autres pour proposer sa subjectivité au monde.
Mais comme Grégory Gadebois avait très peu d'expérience en cuisine, son réalisateur l'a envoyé faire un stage avec le chef Thierry Charrier.
Il est allé en stage au ministère des Affaires étrangères, puisque le chef qui m'a servi de conseiller, c'est Thierry Charrier, qui, avec Jean-Charles Carman, qui m'ont aidé sur ses recettes. Et donc, il est allé au Quai d'Orsay pour travailler en cuisine. Mais le plus impressionnant, c'est pas d'apprendre à faire du pain ou faire des délicieux, c'est de voler les gestes, voler l'ergonomie, voler le rapport au lieu.
Et est-ce qu'un film à l'ADN 100% français plaira au public australien? Éric Bénard n'en a aucun doute.
C'est une force universelle que d'avoir une identité. Donc je pense que le fait que le film soit profondément français dans son histoire lui donne une dimension universelle, d'autant plus que les idées de la Révolution française, s'il y a deux choses que la France a exportées dans sa vie et réussi, c'est un, les idées de la Révolution française, et deux, le restaurant, qui est quand même pas le... Si vous allez n'importe où dans le monde, vous allez voir que c'est plutôt un succès. Donc là, il y a obligatoirement un terrain intéressant.
Le film délicieux est présenté en avant-première australienne à partir du 10 décembre et sortira officiellement en salle partout au pays le 26 décembre.
Et en fin d'émission, un rappel des grands titres de ce 21 décembre. Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré que l'Australie entre dans une nouvelle phase de gestion du Covid-19, qui est une culture de responsabilité plutôt que de contrôle et de mandat. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé exhorte les gens à envisager de retarder ou d'annuler les événements de Noël à cause de Omicron. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est jeudi à partir de 13h sur les ondes de Radio SBS. N'oubliez pas de télécharger nos podcasts sur sbs.com.au/french. Et on va se quitter en compagnie de Bon Entendeur et MC Solar qui nous interprète La Nuit.
Notre Père qui êtes aux cieux, faites en sorte de les restituer ces hauts lieux. Je mettrai des platines sur l'autel, même si ce n'est que bagatelle. Sinon c'est l'enfer d'un monde calibré, contrôlé par des cerbères. Please, libérez les œufs pour que les crews et les clans se retrouvent dans le club.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.